VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Bamako et à Ouagadougou, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, les Burundais attendent toujours la publication d'un nouveau calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a confirmé à VOA Afrique avoir transmis les dates suivantes. 26 juin pour les élections locales et 15 juillet pour la présidentielle. C'est maintenant au pouvoir burundais de valider ou non ce chronogramme. La journée a été plutôt calme ce lundi au Burundi et la police est toujours déployée en masse dans Bujumbura pour empêcher les manifestations. Sur le plan diplomatique, c'est la francophonie qui appelle à une reprise du dialogue politique. Nicolas Pineau.
C'est Pascal Couchepin, chef de cette mission de l'OIF, qui l'a déclaré ce lundi à Bujumbura. À l'issue de sa rencontre avec Pierre Nkurunziza, le Suisse a expliqué que l'OIF n'est pas seulement une communauté linguistique, c'est aussi une communauté de destin dans lesquelles les pays partagent des valeurs communes, notamment le respect des règles démocratiques et des droits de l'homme. L'OIF se veut diplomate et assure respecter la souveraineté du Burundi en appelant à la reprise du dialogue. Il n'est pas question d'imposer au Burundi quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui probablement n'aurait qu'une chance de survie assez limitée dans le temps, a souligné Pascal Couchepin. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie doit rester plusieurs mois dans le pays alors que les manifestations s'essoufflent après un mois et demi de mouvement. La nuit dernière, pour une raison encore inconnue, le marché de Kinindo a pris feu à Bujumbura. C'était l'un des grands marchés de la capitale burundaise. La plupart des commerces sont partis en fumée.
Mouhamadou Bouhari participe au G7 en Allemagne. Le nouveau président nigérian est autour de la table des 7 pays les plus riches du monde pour évoquer les problèmes de terrorisme et la lutte contre Boko Haram. Bouhari devrait également évoquer la corruption et les problématiques de développement au Nigeria. Également, à propos du G7, dans le communiqué publié à l'issue de leur sommet, ce groupe des 7 a réaffirmé leur ferme détermination à adopter un accord lors de la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre prochain. Camille Gros-Didier.
Le G7 s'est engagé sur l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius la hausse de la température moyenne dans le monde, a fait savoir le groupe des 7 en clôture de son sommet à Elmau, en Bavière. En ce qui concerne l'Ukraine, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé le G7 à confirmer son unité sur les sanctions contre la Russie. Le président Vladimir Poutine n'était pas invité à ce sommet pour la seconde année consécutive. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Barack Obama sont tombés d'accord sur un maintien des sanctions tant que la Russie ne respectera pas complètement les accords de Minsk et la souveraineté de l'Ukraine. Ces accords conclus en février entre les différentes parties prévoient un cessez-le-feu qui est régulièrement violé.
Et pour être tout à fait complet, les pays du G7 ont appelé lundi les autorités rivales libyennes à prendre des décisions politiques audacieuses au moment où elles entament une nouvelle session de négociations au Maroc cette fois. Session de négociations présentée comme décisive par l'ONU pour surmonter leur division. Deuil national de 3 jours au Ghana a compté de ce lundi pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la station d'essence et des inondations qui ont fait plus de 150 morts. Pour la circonstance, le gouvernement a convié les Ghanéens à porter des vêtements noirs ou des brassards rouges et également à prier et à réconforter les familles des victimes du double drame. Jean-Roger Bion.
Mercredi prochain, au dernier jour du deuil, un service commémoratif pour les défunts aura lieu à proximité du site de l'explosion au rond-point Kwame Nkrumah à Accra en présence du président John Mahama. Près de 10 000 personnes ont été affectées par les inondations et l'incendie qui ont fait, selon la Croix-Rouge, plus de 150 morts la semaine dernière. Les agences de l'ONU ont été invitées à collaborer avec les organismes locaux pour porter secours aux victimes de cette tragédie, qualifiée par le président ghanéen John Dramani Mahama de catastrophique et presque sans précédent. Tout est parti d'un incendie jeudi dernier, suivi d'une explosion dans une station-service de la Ghana Oil Company. Le feu se serait déclaré dans une maison avant de s'étendre à la station voisine, détruisant aussi une pharmacie et des immeubles voisins. La catastrophe a causé la mort de dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans la station pour s'abriter de pluies torrentielles à l'origine d'importantes inondations.
Merci Jean-Roger. Et au Burkina Faso, pléthore de candidats à la présidence. Rien que le week-end écoulé, 3 prétendants de plus se sont manifestés. Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso, autrement et ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré. Adama Kanazo, président du bureau politique de l'Alliance des Jeunes pour l'indépendance et la République. Et Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ce qui porte déjà à 8 le nombre de candidats.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et le reste de l'actualité dans le monde, en Turquie, suite au sérieux subi par son parti islamo-conservateur AKP aux législatives, hier, le président Recep Tayyip Erdogan demande aujourd'hui aux partis politiques de faire preuve de responsabilité pour préserver la stabilité et la confiance dans le pays. L'AKP a perdu sa majorité absolue, détenue depuis 13 ans au Parlement, mettant ainsi fin aux espoirs du chef de l'État de modifier la Constitution pour instaurer un régime présidentiel. Jacques Aristide.
Le parti de la justice et du développement AKP est tout de même arrivé en tête du scrutin, mais n'a recueilli que 40,7% des suffrages et 258 sièges de députés sur 550, d'après les résultats définitifs. Ce qui contraint l'AKP, pour la première fois, à former un gouvernement de coalition, rapporte l'AFP. Autre première dans le paysage politique turc, le parti kurde HDP a largement franchi la barre des 10% imposée au parti pour obtenir un siège sur les bancs du Parlement. Avec 13% des voix, il en obtient 79. Le parti social-démocrate CHP et le parti de droite MHP, qui constituent les deux autres principaux concurrents du parti au pouvoir, totalisent 132 et 80 sièges respectivement. Vainqueur de tous les scrutins depuis 2002, le parti AKP se présentait pour la première fois affaibli face aux électeurs, victime du déclin de l'économie et des critiques récurrentes sur la dérive autoritaire de son chef historique. Aucun incident n'a été signalé pendant ces élections législatives.
Des représentants de l'opposition syrienne ont entamé aujourd'hui une réunion de 2 jours au Caire pour tenter de créer un nouveau regroupement élargi contre le régime de Bachar el-Assad et adopter une charte nationale. Et toujours concernant le G7, le premier ministre irakien Haider al-Abadi doit s'entretenir avec le président Barack Obama aujourd'hui en marge du sommet au sujet de la guerre contre le groupe État islamique. De nouvelles consultations une semaine après que le leader irakien ait réclamé davantage d'aide de la coalition menée par les États-Unis, qui effectue depuis près d'un an une campagne aérienne contre les djihadistes. Conflit au Yémen, le président yéménite Abdou Rabou Mansour a dit les négociations sous l'égide de l'ONU qui commenceront dimanche, qui ont commencé hier à Genève, n'ont pas pour objectif une réconciliation entre son gouvernement et les rebelles chiites houthis qui l'ont forcé à chercher refuge en Arabie Saoudite cette année. Le président américain Barack Obama, faisant référence au scandale de la corruption à la FIFA, a souligné que le football était un sport, mais aussi, entre guillemets, un énorme business qui avait besoin d'intégrité. Il a dit ces mots lors de sa conférence de presse finale au sommet du G7 en Allemagne, refusant de commenter l'enquête américaine en cours visant la FIFA pour des faits de corruption. Monsieur Obama a estimé qu'il était important que l'organisation internationale, aujourd'hui dans la tourmente, fonctionne dans la transparence. Enfin, Oscar Pistorius, la tête paralympique sud-africain, condamné à 5 ans de détention pour avoir tué sa petite amie en 2013, sortira de prison le 21 août, mais sans certitude pour son avenir. Son procès devant être examiné en n'appel. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir, Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet VOA Afrique et notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.